Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire du journal du jour, exposition « Ce qui ne saurait se voir », œuvre de Jean-Philippe Aubanel jusqu'au 6 juillet au hangar 717 à Glézé. Dessins et peintures, un langage poétique de l'artiste à voir. Mais c'est pas tout. Dans la mouvance du Land Art, le créateur Marc Pedoux vous interpelle en intégrant l'espace de sculpture monumentale au hangar 717. Et enfin, le département du Rhône lance un appel à projet pour soutenir les clubs et comités sportifs rhodaniens. Où que l'on soit en France, en métropole ou en outre-mer, à la campagne ou en ville, l'été culturel est là. L'objectif, faire en sorte que chacune et chacun puisse participer à la vie culturelle de son territoire durant la période estivale, en particulier ceux qui ne partent pas en vacances. Une attention toute particulière est portée aux publics ruraux et aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPV. Grâce à la mobilisation des professionnels de la culture, de l'éducation populaire et des structures sociales, des manifestations poussent partout en France, dans tous les domaines, du livre aux arts visuels, en passant par le cinéma et le spectacle vivant. L'ambition, aller à la rencontre des enfants, des jeunes et de leurs familles, pour leur faire bénéficier d'ateliers, de spectacles, de visites et d'autres aventures. Car cet été encore, la culture ne prend pas de vacances. Chic ! Comme le rêve, la peinture de Jean-Philippe Aubanel est un langage poétique, des répétitions insistantes, dessins et peintures où se cache un continent inconnu. Une nouvelle exposition au titre évocateur, « Ce qui ne saurait se voir », à nous de le découvrir.
La peinture, là c'est du dessin, c'est pas pareil. Oui, regardez, c'est pour écouter la petite musique des vanités. C'est-à-dire que ce qu'il faut décrire ce qu'on voit, sachant que chaque fois qu'on parle du travail, ça ne correspond jamais à ce qu'on voit. Les yeux ne voient pas ce qu'ils voient. Et il n'y a que la syntaxe, notre syntaxe, qui peut être un autre langage qui se colle sur déjà ce langage. Donc c'est compliqué.
Alors, vous avez choisi la thématique « Ce qui ne saurait se voir ». Alors, est-ce que c'est une façon de dire avec élégance que quelque chose gêne finalement ?
Bien sûr, tout à fait, c'est une excellente remarque. Ce qui ne saurait se voir, c'est pas seulement ce qui ne se voit pas, mais c'est que, qu'est-on apte à découvrir ? Est-ce que, après ça pose des questions plus triviales, doit-on savoir pour mieux voir ? Que faut-il savoir pour mieux voir ? Est-ce qu'il faut savoir pour mieux voir ? Je n'ai pas de réponse à la question. Mais ce qui ne saurait se voir, c'est peut-être de l'ordre de l'invisible, rendre visible l'invisible. Je ne parle pas de mon boulot, ça serait pour paraphraser Paul Klee, mais ça dit un peu tout ça. C'est toujours ce problème du langage et de la vision. Ce qui ne saurait se voir ne saurait encore moins se dire.
Et vous dites également, je dirais qu'il suffit d'une tâche pour faire fonctionner...
Grain de beauté.
Oui, un grain de beauté, voilà.
Ça m'a toujours fasciné quand on est ce qu'on nomme des chefs-d'œuvre, qui surtout pour un non-craignant Dieu comme moi, sont souvent des sujets bibliques. Je pense au Caravage, notamment, dans ces grandes peintures sublimes avec ces corps qui sont tout sauf naturels, c'est-à-dire qu'il y a toujours 5-6 vertèbres en plus, les bras sont démesurés, on ne s'en aperçoit pas, et d'un seul coup surgit au milieu d'un visage avec quelques taches blafardes un grain de beauté, et tout s'organise autour de ça. Et d'ailleurs, il porte bien son nom, c'est un grain de beauté. C'est insupportable, la beauté c'est de l'ordre de l'inaccessible. De l'insupportable, c'est terrible à dire, mais c'est l'inaccessible. Donc ce qui ne saurait se voir, comme dirait notre cher William, that is the question. Quoi.
Il y a un petit côté Tartuffe de Molière.
Cacher oui, bien sûr, cacher ce grain de beauté que je ne saurais voir. Molière, c'est absolument... C'est génial aussi, bien sûr. Mais on est dans la littérature, là. Voilà, on est dans le verbe, on est dans le verbe. Vous me conduisez exactement où je voulais aller. Bien sûr, ça force l'imagination et j'allais dire un peu bêtement, mais bienvenue à ce que vous voulez bien y voir à travers ce que vous avez à y entendre. C'est, donc, la question reste posée.
Et à chaque fois, vous imaginez les espaces, vous allez voir les espaces sur lesquels
sûr.
Vous allez,
ouais. Oui, oui, c'est très important, c'est très important. L'espace est important, et il est d'autant plus important que justement, à travers le verbe, il faut comprendre qu'un espace, c'est une densité. Un espace, c'est, pour moi, c'est dur. Il faut, on dit rentrer dans l'espace, se mettre devant. La participation du corps est essentielle, surtout à une époque où tout est dématérialisé, on a... l'IA, au lieu de l'intelligence collective, on a l'intelligence artificielle. Donc c'est sûr que l'espace est primordial pour respecter le corps du regardeur.
Une constante du portrait finalement de ce visage, de cette tête.
Portrait, figure, visage... c'est la seule chose qui, à mon avis, qui reste dans mes rêves et dans mes préoccupations philosophiques. Je me dis que dans quelques centaines d'années, j'espère que les hommes auront encore un visage et qu'ils pourront se regarder face à face, droit dans les yeux. Ça devient de plus en plus difficile, surtout à une époque qui nous paraît à tous et à toutes, je pense, plutôt compliquée. Et... la phrase d'Antonin Artaud, toutes les époques sont dégueulasses, je pense qu'on peut la reprendre à notre compte actuellement en étant un tout petit peu plus dégueulasse qu'avant. Ça, c'est une position personnelle que je me permets d'émettre. Mais à travers le travail, peut-être que cette espèce de repos et cette espèce d'histoire de dialogue, monologue, tête, vanité, animaux, tout ça se mélange. Il y a une maison qui commence à repousser, mais elle est au milieu de ruines. Ça rappelle vaguement les choses qui se passent en ce moment. Il y a Père Ubu qui est dans un coin. Donc Père Ubu, on a un président américain qui est en train de prendre exemple sur Père Ubu. Il devrait payer des droits d'auteur à Père Ubu. Il est encore plus ubuesque que l'œuvre d'art. Donc on est dans une époque où peut-être le mensonge généralisé copie par certains moments les œuvres d'art qui paraissaient grotesques avant. Mais tout ça, je vous répète bêtement, mais bienvenue à ce qu'on veut bien y voir et... C'est une invitation à voyager. Alors, ça serait prétentieux de dire à se poser des questions, mais le travail, c'est de poser des questions quand même, et pas des réponses, bien entendu.
Et pour conclure, Jean-Philippe Aubanel, l'ignorance vous sauve, nous dites-vous ?
Tout ce qui m'intéresse dans mon travail, avant tout, c'est ce que je ne peux pas comprendre. Donc, je ne veux pas m'excuser pour poser. Je ne pose pas des énigmes, c'est pas un rébus que je pose. Ce sont des images qui sont très simplement, j'aimerais qu'ils touchent la sensibilité du spectateur, de ce fameux corps dans l'espace, devant l'objet, qui se promène, qui regarde, qui... Et là, ce que vous regardez, là, c'est vraiment les préparations, c'est les petits moments, les petits instants qui sont plus concentrés. Hein. Alors avec effectivement beaucoup de corps de femmes, le modèle idéal, la Vénus, aussi la Strige, aussi, je dirais aussi quelque chose d'inquiétant. Quoi. Des choses qui paraissent fondamentales, quoi. Le corps de la femme, la vanité, le temps qui passe.
Merci Jean-Philippe Aubanel.
Je vous en prie, merci. C'est moi qui vous remercie. Hein.
Dans la mouvance du Land Art, les sculptures monumentales du créateur Marc Pedoux présentent l'environnement dans son aspect symbolique et poétique, confie-t-il. Les installations sont visibles au hangar 717 à Glézé. Entrez dans l'univers intime de l'artiste.
Elle datait des années 78 et elle représente, c'est une des premières sculptures où je pars d'éléments que je vais chercher dans la nature. C'est-à-dire que la nature a déjà sculpté les trois quarts de cette pierre et moi je l'ai réaménagée, resculptée, recreusée, il y a des choses qui traversent et je l'ai mis en situation sur une tige métallique qui la met comme si c'était un socle mais qui la met en élévation tout en symbolisant une sorte d'éclair ou d'énergie. Alors il y a deux possibilités, ou c'est un éclair qui traverse la sculpture, ou ce sont les énergies de la terre qui élèvent la sculpture, si tu veux. Tout mon travail, à partir des années 75, après avoir fait beaucoup de sculptures en taille directe, dans des gros blocs de pierre, je me suis aperçu, en travaillant en carrière, que dans les carrières, dans la nature, il y avait déjà des pierres sculptées, déjà la nature avait déjà transformé, comme un galet qui est une forme très pure, ça a été travaillé pendant des milliers et des milliers d'années, et on retrouve une forme sculpturale très, très intéressante qu'ont utilisé les premiers artistes contemporains du début du XXe siècle. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que quand on regarde de plus près, on voit que cette pierre est entièrement creusée. Si je la mettais verticale, ça pourrait ressembler à une oreille. C'est-à-dire que quand on la regarde par derrière, faut faire... Alors, c'est l'avant... Enfin, la différence de la sculpture et de la peinture, c'est que la sculpture, ça se regarde sur 360 degrés, mais encore plus parce qu'on peut la voir de dessus. Et quand on la regarde de dessus, on voit tout le travail que j'ai fait. À la fois, on voit la matière naturelle avec ses petits grains qui constituent la pierre, et ces formes que j'ai retravaillées, que j'ai recreusées et que j'ai mis en espace. Donc ça, c'est une des premières sculptures importantes que j'ai fait où je me suis intéressé aux éléments de la nature et aux énergies. Donc après, dans mon travail, j'ai continué à faire ce travail avec du bois, avec d'autres matériaux. Et l'utilisation de matériaux contemporains et industriels comme le métal qui est ici, qui a été forgé, qui a été tordu, ou des fois d'autres sculptures que l'on pourra voir après dans mon atelier. J'utilise beaucoup de profilés d'acier qu'on appelle des IPN, des choses comme ça, qui symbolise l'industrialisation de l'homme et ce que j'aime faire, c'est de faire un contraste entre la beauté de la nature et les éléments que l'homme a utilisés pour son industrie, pour le progrès, pour voilà, tous ces éléments-là.
Montrer le rapport de l'homme au monde extérieur et apprécier la trace de son activité pour mesurer le sens d'un geste artistique dans nos sociétés, confie Marc Pedou. Ouverture au public du hangar 717 à Glaizé de 15h à 19h le vendredi, samedi et dimanche ou sur rendez-vous au 06 83 12 81 25. Le département du Rhône lance un appel à projet pour soutenir les clubs et comités sportifs rhodaniens dans le cadre de l'aide à l'achat d'équipements sportifs. Avec ses 120 000 licenciés sportifs, plus d'un quart des rhodaniens pratiquent une activité sportive encadrée. Le département du Rhône donc soutient l'achat d'équipements sportifs des associations sportives comme des communes ou communautés de communes au travers d'une aide à l'investissement. Les dossiers de candidature sont à remplir en ligne dès à présent et jusqu'au 10 juillet. L'e-dossier est disponible sur le portail des subventions, subventions.rhône.fr. Fin de notre édition, restez à l'écoute des Calades. À tout bientôt.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.